engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Une nouvelle année scolaire a débuté pour les plus de 127 000 écoliers, collégiens et lycéens que compte le Loiret. À cela s'ajoutent les près de 9 500 enseignants qui vont les accompagner. Cette rentrée assez spéciale s'est tenue en pleine transition gouvernementale. Même si elle ne voulait rien dire à ce moment, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, savait que ses jours au sein du gouvernement étaient comptés lorsqu'elle était passée à l'école Pauline Kergomar d'Orléans-la-Source. C'était le 2 septembre dernier. Elle a effectivement été remplacée depuis par Anne Genté lors du remaniement annoncé ce samedi 21 septembre autour du Premier ministre Michel Barnier. Une rentrée particulière pour des raisons politiciennes, mais aussi dans un contexte de mise en place de deux mesures qui ont fait parler. La pause numérique, ou le dépôt des téléphones portables à l'entrée des établissements scolaires, une mesure expérimentée dans certains établissements avant une généralisation possible début 2025, mais surtout la mise en place de groupes de besoins, mesure qui a ulcéré une partie du corps enseignant. La Rédac Pop a fait le point sur 5 dossiers avec le recteur de l'Académie Orléans-Tours, Jean-Philippe Agresti, et l'ex-ministre Nicole Belloubet, ainsi que deux enseignantes locales, Lucille de Wattine et Sylvie Lenné. La première est professeure des écoles et co-secrétaire départementale SNUIPP-FSU pour le premier degré, tandis que la seconde est professeure de français au lycée Potier d'Orléans et secrétaire départementale du SNES-FSU pour le second degré. Bien évidemment, les analyses divergent entre représentants de l'État et enseignantes syndicalistes. Au cours d'un déjeuner presse, le recteur avait indiqué concernant le déroulement de la rentrée dans le Loiret que chaque classe aurait un enseignant et qu'il n'y avait pas de tension structurelle à souligner.
La rentrée est préparée depuis 10 mois. Il y aura bien un enseignant devant chaque classe. Pas de problème structurel dans l'académie. Il n'y a pas de tension structurelle. Il y a des disciplines dans le second degré sur lesquelles nous sommes particulièrement attentif, le français, l'anglais et quelques disciplines en formation professionnelle, des disciplines que je qualifierais de niche.
Mais rien d'alarmant selon le haut fonctionnaire, qui indiquait d'ailleurs être particulièrement attentif à constituer un vivier de contractuels. Il a précisé que ce recours aux enseignants non fonctionnaires dans l'académie est de 1% pour le premier degré et de 8% pour le second degré en début d'année scolaire. L'enseignante syndicaliste Lucille de Wattine porte quant à elle un autre regard sur la situation.
Le problème, il est structurel, puisqu'au bout de, à partir du moment où on est obligé d'utiliser des moyens de remplacement dès la rentrée pour faire en sorte d'essayer d'avoir un enseignant devant chaque classe, à partir de là, ça veut dire qu'il y a un problème de recrutement qui est structurel. À partir du moment où on en est à ne pas avoir un vivier suffisant, notamment au niveau de contractuels, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de recrutement et un problème structurel. C'est global, c'est un peu la tendance nationale, c'est-à-dire que les concours ne font pas le plein. Donc on arrive à l'été à devoir recruter des contractuels et en réalité, alors les contractuels ne vont pas être appelés sur du remplacement. Ils vont souvent être appelés par exemple sur les ouvertures de classes qui ont été actées là après la rentrée. C'est souvent des postes effectivement de contractuels. Par rapport à l'académie, le Loiret est plutôt déficitaire en enseignants et enseignantes et on a un réel problème, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui attirent peu. Notamment du côté de Montargis et donc effectivement les contractuels eux peuvent refuser des postes. Ils sont pas comme les fonctionnaires où on leur dit vous êtes affecté à cet endroit et puis on y va. Donc il y a aussi ce côté un peu, enfin très délicat du côté de l'administration où ils doivent trouver des postes où les contractuels accepte d'être.
La grande nouveauté de cette année scolaire concerne l'enseignement secondaire et la mise en place des groupes de besoins, qui étaient auparavant appelés groupes de niveau. Des groupes pour les enseignements de français et de mathématiques qui suscitent l'interrogation dans le corps enseignant. Si les élèves continuent d'être en classe entière sur le reste des enseignements, soit les deux tiers du temps scolaire, ces derniers doivent dorénavant être répartis en groupes communs à plusieurs classes, sur la totalité de l'horaire hebdomadaire de français et de maths, selon le site du ministère de l'Éducation l'éducation nationale. Pour l'ensemble des groupes, ajoute l'institution, les programmes et les attendus de fin d'année sont identiques. La mesure hérisse le poil de nombreux enseignants qui craignent que la formation de ces groupes accentue les inégalités sociales en mettant les élèves les plus performants ensemble et les moins performants entre eux. Une peur que partage Sylvie Lenné, qui préfère la logique du tous ensemble pour que, je cite, « chacun trouve sa place à l'image de la société ».
Et ce qui nous permet de travailler en classe, c'est justement une hétérogénéité contrôlée, c'est-à-dire une hétérogénéité avec un nombre d'élèves raisonnable. Parce que c'est vrai que la priorité, c'est le nombre d'élèves, c'est pas leur niveau. En fait, depuis longtemps, l'école s'est adaptée aux élèves qu'elle avait. Et donc, on est habitué à prendre les élèves là où ils sont pour les amener un petit peu plus loin. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se consacrer davantage à chaque élève, sachant que bon, on a une école maintenant avec qui a beaucoup changé, une société qui a évolué. On a des élèves, comme je dis souvent à l'inspecteur d'académie, tous les élèves maintenant sont à besoins particuliers. Normalement, l'étiquette à besoins particuliers, c'est des handicaps, des choses un peu difficiles, médicalement reconnues. Mais moi, j'ai envie de dire, tous les élèves maintenant ont une histoire, ils sont singuliers et l'école ne peut transmettre que si l'élève se sent pris en compte dans sa totalité d'être humain, on pourrait dire. Hein. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit un nombre raisonnable parce qu'ils ne sont pas autonomes. Hein. L'autonomie, ça ne se décrète pas. Il faut l'apprendre. Il faut la transmettre par la confiance, par le temps qu'on prend. Il faut être capable de, comment dirais-je, à des moments de pouvoir se consacrer à un gamin quand on le sent en difficulté. Et la classe, elle doit aussi apprendre, c'est une forme d'intelligence sociale, que chacun a son rythme d'apprentissage et que on n'a pas à être au même niveau, au même moment. Hein, c'est des respirations différentes. Et pour faire ce travail-là, qui est un travail aussi de mise en confiance et de prise de confiance en soi, il faut pas qu'on ait trop d'élèves. Ils ont tous des demandes, ils ont tous des besoins. Et effectivement, on est dans une école qui va à rebours de ces principes-là, avec une recherche permanente du chiffre, de l'évaluation, qui est une façon, en fait, maintenant les mots qui reviennent dans les bouches des chefs d'établissement, moi je suis dans le second degré, c'est pilotage. Donc on pilote... Hein, et on nous met régulièrement à chaque pré-rentrée devant des tableaux, voilà, comme si on était une entreprise. Alors je dis pas c'est intéressant d'avoir des indicateurs, mais on voit que ces indicateurs ça devient l'alpha et l'oméga, alors que pour nous c'est vraiment une donnée. Et ça veut pas dire parce que les indicateurs sont pas bons que le travail a pas été fait et que des élèves ont pas progressé et que des élèves ne vont pas aussi se révéler par la suite. Hein, l'évaluation, c'est une photographie. Et justement, il faudrait maintenant qu'on puisse comprendre que l'évaluation, elle a pris trop de place parce que l'évaluation, c'est pas un but. C'est juste peut-être un moyen à un moment donné de dire à l'élève, pour l'instant, voilà où tu es arrivé, mais c'était à cet instant T. Et là, peut-être dès demain, dès après-demain, ça va bouger. Hein, alors que là, on est vraiment dans une école qui classe et qui enferme les élèves dans une case. Hein. C'est aussi pour ça qu'on s'est tout de suite, à la FSU, au SNUIPP, au SNES, érigé contre ces fameux groupes. Alors, qui sont devenus groupes de besoins, mais il faut savoir, là je reprends un peu ce que disait le recteur, c'est que, en fait, très rapidement, quand le ministère et quand les autorités rectorales et départementales ont commencé à nous parler des groupes de besoins qui, à l'époque, s'appelaient groupes de niveau, on a tout de suite protesté en disant que, justement, ça ne pouvait pas être des groupes de besoins parce que tels qu'ils étaient conçus par le ministère, c'était des groupes de niveau, puisqu'au départ, je vous rappelle qu'il était question d'évaluer les élèves en début d'année et ensuite de les laisser jusqu'au bout dans la catégorie qu'ils avaient intégrée, c'est-à-dire moyen, faible, fort. Alors évidemment, on va pas le présenter comme ça parce qu'il y a tout un discours, tout un enrobage à l'éducation nationale. Donc maintenant, on aime bien le mot besoin. Il y a des élèves qui ont plus de besoins que d'autres. Bon, mais dans le langage des élèves et des familles, il faut pas se leurrer. Ça va être des élèves qui vont être classés comme des nuls et d'autres qui vont être classés, qui vont s'autoproclamer les forts. Et nous, ce dont on a besoin justement, c'est d'une dynamique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un peu de tout. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Il faut d'efforts pour tirer la classe, mais l'effort, ils doivent aussi apprendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Et qu'ils peuvent aussi avoir à apprendre des moins à l'aise, parce que, à force, comment dirais-je, d'entendre des questions, des questionnements sur ce qu'ils pensent avoir compris, ils peuvent aussi, eux aussi se rendre compte qu'ils n'ont pas compris exactement, ou que, de toute façon, le savoir, c'est aussi savoir écouter l'autre. Il y a une intelligence sociale qui se développe au sein du groupe, et c'est pas une logique d'exclusion, c'est plutôt une logique du tous ensemble. Et effectivement, dans une classe, chacun comme ça trouve sa place. Hein, et c'est à l'image finalement de la société qu'on fabrique aussi à l'école, où chacun a sa place. Il y a rien de déshonorant, il y a rien de plus important qu'autre chose. On a des talents, on a des capacités de progrès, et avec ça, on peut avancer ensemble et faire une société. Et donc voilà, donc nous c'est plutôt le nombre d'élèves qui nous préoccupe plutôt que un niveau homogène qui en plus n'est qu'un indicateur provisoire, puisque les niveaux ça bouge tout le temps en fait, hein. La question c'est de savoir comment des élèves vont réagir quand ils vont effectivement constater qu'ils sont tous entre guillemets au même niveau, dans la mesure où des élèves qui sont en difficulté ne s'entraînent pas nécessairement les uns les autres à surmonter les difficultés. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on peut très bien avoir une absence de dynamique de classe, puisque tous les élèves se sentent en difficulté. Et donc, il peut ne pas y avoir de stimulation, on va dire. De même que l'effort, à force de considérer que tout est acquis, finalement, peuvent aussi s'endormir sur leur laurier. Disons que le seul avantage de ces groupes dits de besoin, c'est le groupe. C'est-à-dire le fait d'être en effectif réduit. C'est pour ça que quand le recteur nous parle de groupe classe, ça n'existe pas. C'est une classe. Et nous, ce qu'on veut, c'est des classes réduites pour qu'en fait, les conditions d'individualisation de la pédagogie et de la transmission du savoir puissent être réunies. Les enfants ont besoin qu'on les prenne en considération presque individuellement. Hein. Donc c'est ça. Donc c'est l'absence de dynamique qui est à craindre, et aussi le regard que les enfants peuvent porter sur eux-mêmes. En disant, ça y est, je suis catalogué, je suis faible, ou alors ça y est, je suis reconnu comme un fort. Sans compter le jeu des parents, qui, on le sait, c'est déjà arrivé en début d'année, qui vont faire pression sur l'école pour que leur enfant soit intégré dans le groupe des forts, parce que ce serait déshonorant pour leur enfant de traîner avec des moyens ou des faibles. Enfin, il y a tout ce problème-là de l'étiquette.
Le recteur explique quant à lui que la mise en place de ce dispositif se fait dans l'Académie Orléans-Tours avec beaucoup de souplesse.
La mise en place des groupes de besoins s'est faite dans cette académie avec une grande latitude. Latitude qui est laissée par les textes. Les textes permettent au collège de mettre en œuvre leur autonomie pour la mise en place des groupes de besoins. D'abord, 2/3 des cours qui ont lieu en groupe classe. Et puis pour les mathématiques et le français en 6e et en 5e, ensuite, la mise en place des groupes de besoins. Et cette mise en place des groupes de besoins, avec le contrôle des corps d'inspection, les chefs d'établissement et les équipes, s'est faite en fonction des besoins de chaque établissement, en fonction des besoins de chaque collège.
Ce qu'on a décidé, enfin ce qu'on a proposé aux collègues au niveau du SNES-FSU, c'est... Et ça s'est passé dans pas mal de collèges. C'est pour ça que le recteur a parlé de souplesse. Mais en fait, là où il parle de souplesse, c'est parce qu'il y a eu une levée de bouclier des collègues qui ont demandé, en fait, à faire eux-mêmes des groupes hétérogènes. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, on a un petit peu détourné ce qui était l'esprit initial de la réforme. C'est qu'en fait, on est revenu tout simplement à un fonctionnement en classe réduite, mais hétérogène, pour justement qu'on puisse retrouver cette émulation et cette dynamique pour un professeur, avoir des éléments moteurs et d'autres un peu plus lents.
Pendant ce point presse, le haut fonctionnaire a expliqué entendre les critiques et comprendre les réticences. Mais il estime que, je cite, « si on ne fait rien, si on ne tente pas quelque chose, les inégalités vont continuer à se creuser. Et en termes d'égalité des chances, je pense qu'on ne remplira pas les objectifs que chacun est en droit d'attendre de nous. Il faut agir sur les savoirs fondamentaux », explique le recteur. Il appelle ainsi à la patience, je le cite, « laissons cette réforme s'installer et on en tirera le bilan ».
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Cette rentrée est aussi l'occasion de faire le point sur le dispositif de dédoublement des classes. En visite à l'école Kergomar au cours de la rentrée, Nicole Belloubet a mis en avant cette mesure pour les grandes sections dans cette école. Elle a été mise en place à partir de 2021 pour les établissements des réseaux d'éducation prioritaire, REP et REP+, et suivant celle instaurée pour les classes de CP et CE1 en 2017.
Je suis venue dans cette école située en éducation prioritaire pour montrer à quel point le travail des enseignants qui bénéficient d'un dédoublement des classes de grande section CP, CE1, dédoublement qui sera effectué à 100% cette année, à quel point ce travail peut produire des résultats pour nos élèves. Et c'est cela que je voulais souligner en venant dans cette école. Dire que pouvoir travailler avec des élèves dans des petits groupes, cela permet de lutter contre les assignations sociales, contre les risques d'échec scolaire. Et cela, c'est le travail de nos enseignants, le travail de nos directeurs d'école, que je salue ici, et les moyens qui sont mis évidemment par l'État pour ce dédoublement de classe qui donne des résultats. Nous l'avons vu cette année, puisque cette année nous avons fait des évaluations en sixième et que c'est la première fois que nous avons pu avoir une cohorte complète d'élèves qui avaient bénéficié de ce dédoublement des classes dans leur scolarité. Et on le voit, les résultats sont meilleurs. On peut progresser davantage encore, mais d'ores et déjà, on peut dire que sur certains items des évaluations de sixième, les résultats sont meilleurs. C'est donc cela que je suis venue souligner aujourd'hui.
Pour l'enseignante syndicaliste Lucille de Wattin, c'est une très belle communication, mais sur le terrain, il n'y a jamais eu, je la cite, d'études réelles sur l'effet de ces dédoublements.
Lors de la mise en place de ces dédoublements, il y avait dans les écoles d'éducation prioritaire ce qu'on appelait des enseignants maîtres supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils intervenaient sur des compétences précises décidées avec les équipes enseignantes, avec des petits groupes d'élèves. Pour mettre en place les dédoublements, ces postes-là ont été supprimés, sans jamais avoir demandé l'avis des collègues, et l'effet que ça avait notamment sur les apprentissages et les élèves. En plus, on le voit lors de la carte scolaire, ces dédoublements, on nous les avait vendus sur des effectifs à 12 qui sont passés en réalité en fait à 15, voire on peut pousser peut-être à 16 ou 17 en cours d'année. La réalité est totalement différente et on le voit bien en fait. Ils utilisent les évaluations et pour justifier en fait de leur politique qui est souvent remise en cause en fait par les collègues sur le terrain, puisque en fait c'est des doublements. Je veux bien qu'elle nous montre les études effectivement qui montrent les effets, puisque c'est ce qu'on demande depuis plusieurs années.
Quelles sont les limites de ces évaluations selon vous?
Les limites, déjà, c'est qu'on ne parle que de maths et de français dans ces évaluations. Il n'y a aucune autre discipline, aucune autre compétence qui n'est évaluée. Et en plus, elles sont faites de sorte qu'en début d'année, là d'ailleurs, on commence cette semaine, il y a des choses qui n'auront pas été vues les années précédentes. Donc forcément, les élèves échouent sur ces exercices-là. Et on en fait un peu plus tard dans l'année, avec les mêmes compétences. Et là, ils vont réussir, forcément, puisque l'enseignant et l'enseignante aura fait son travail et aura fait progresser ses élèves. Donc c'est totalement biaisé et c'est vraiment du chiffrage, une politique du chiffre et pour mener à montrer que leur politique fonctionne, alors que, en réalité, c'est uniquement les compétences des enseignants et des enseignantes qui font progresser les élèves et... ils le font alors que les moyens sont largement insuffisants. Je vois qu'elle parle aussi de l'école, donc elle a été, c'est l'école Kergomar en éducation prioritaire. Elle aurait pu aussi peut-être aller à l'école Henri Poincaré, qui est pas très loin, à Orléans-la-Source, qui elle n'est pas en éducation prioritaire et pourtant qui a un indice de positionnement social très faible, qui est de 76,9, je crois, et qui commence cette rentrée avec des classes de maternelle à 29 ou 30 élèves. Effectivement, il y a des dédoublements en éducation prioritaire, mais pour ça, il faut que les écoles soient en éducation prioritaire, ce qui n'est pas le cas de toutes.
Donc la critique globale sur les dédoublements, c'est que, un, ils seraient inefficaces, et deux, ils ne seraient pas répartis suffisamment sur suffisamment d'établissements. Enfin, comment est-ce qu'on peut résumer cela ?
Bah déjà, ils sont limités à certains niveaux. C'est-à-dire que là, on va avoir des enfants qui ont des classes, effectivement, dédoublées à 15 en grande section, CP-CE1, et en CE2, qui vont se retrouver d'un coup à 23 ou 24. Donc, effectivement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que il n'aurait pas été plus judicieux de réduire les effectifs partout, déjà
plutôt... Ce qui supposerait plus de moyens.
Ce qui supposerait effectivement plus de moyens. Et on ne dit pas qu'ils sont inefficaces, puisque en soi, comme je disais, aucune étude n'a vraiment été faite sur le terrain. On dit juste qu'il y avait aussi des choses mises en place avant ces dédoublements qui, pour le coup, étaient efficaces et satisfaisaient les collègues. Et c'est ça qu'on regrette.
Sujet revenant tous les ans à chaque rentrée, l'inclusion des élèves en situation de handicap dans l'école française.
L'inclusion est une priorité, évidemment, dans cette année olympique et paralympique, et c'est un symbole fort qui doit nous montrer le chemin. C'est plus de 6000 élèves qui vont se rendre aux Jeux olympiques et paralympiques dans cette académie. Donc l'inclusion est une priorité. Là aussi, comme pour les enseignements et les enseignants, nous sommes en phase terminale d'affectation pour l'accompagnement et dès lundi, nous travaillerons sur le remplacement et à la résolution de tous les besoins en accompagnement dans toute l'académie. Les besoins dans l'académie sont pourvus. Dans la plus grande majorité des cas, il nous reste quelques dossiers. Les équipes sont sur ces dossiers pour trouver des solutions. Il n'y a pas une AOSH pour chaque élève. En fonction des prescriptions qui nous sont données, évidemment, le système AESH d'accompagnement est adapté aux besoins de l'élève. Parfois, dans des pathologies très lourdes, il y a une AESH ou un AESH avec un élève. Parfois, c'est quelques heures dans la semaine. Tout le monde aura une solution. Nous mettons tout en œuvre pour que tout le monde ait une solution.
Ce constat laisse Lucille de Wattine très perplexe.
Eh ben, je ne vois pas comment, puisque jusque-là, on passe chaque année avec des élèves qui n'ont pas leur nombre d'heures d'AESH. Donc, je ne sais pas comment il va faire, sauf si le gouvernement nous cache une revalorisation des AESH avec un statut de fonctionnaire, ce dont je doute fortement. Mais non, en réalité, chaque année, il y a des élèves en situation de handicap qui sont notifiés avec des heures qui ne sont pas pourvues. Et bon, il parle des AESH individuels et effectivement, il y a aussi des AESH qu'ils appellent mutualisés. Et celles-ci, ça les arrange bien puisque ça compte pas en heures, en fait, les mutualisés. On s'arrange entre les écoles. Parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est les directeurs et directrices qui organisent en fait l'emploi du temps des AESH. Le métier d'AESH, il est indispensable pour faire de l'inclusion comme il faut. Et là, actuellement, quand on est un métier précaire, parce que c'est souvent des contrats à temps partiel payés en dessous du SMIC, bah forcément ça n'attire pas et pourtant on a des personnes qui souhaiteraient s'engager auprès des enfants pour les accompagner dans leur scolarité, mais la réalité c'est que ils ont aucun statut, il n'y a pas de statut de fonctionnaire, donc il n'y a pas de protection comme on peut le connaître en tant que fonctionnaire, et le salaire n'est pas du tout à la hauteur. Quand on fait de l'inclusion une priorité, comme il dit, la moindre des choses, c'est de payer correctement les gens. Et ça a été vraiment révélateur hein, pendant le Covid, nombre de métiers, c'est des métiers indispensables, on l'a vu, puisque c'est des métiers qui continuent à tourner. Donc ça montre bien qu'ils étaient indispensables. Et pourtant, ça fait partie des métiers les moins bien payés. Bon, je passerai sur le fait que c'est souvent des métiers très féminisés aussi. peut-être un lien. Mais effectivement, enfin, ça reflète quelque chose de la société, je pense. Donc, et malheureusement, on n'a pas vu. On n'a pas vu prendre un tournant ou un virage pour changer cet aspect-là et faire en sorte que, bah, effectivement, les métiers dont on a besoin soient revalorisés. Au contraire, enfin, on a eu effectivement pendant le Covid tout un aspect où on nous a remerciés, etc. Derrière, le prof bashing, il a été assez vite, en fait.
L'infirmière bashing aussi.
Voilà, c'est ça. Enfin. C'est terrible parce que c'est quand même quelque chose qui est construit. On a des politiques qui suppriment des moyens qui vont faire reposer sur les salariés des responsabilités qui ne sont pas les leurs et un dysfonctionnement qui ne leur est pas dû. Effectivement, ça... Il y a un vrai problème de société.
Et pour revenir aussi sur cet aspect du handicap, est-ce que les problématiques sont encore plus fortes, par exemple, dans les territoires ruraux on a parfois l'impression que c'est encore décuplé dans ces secteurs-là. Est-ce que c'est une fausse impression ?
Disons que sur la ruralité, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place où on se rend compte que les petites écoles de campagne... C'est plus trop ce qui est voulu. On a tendance à vouloir faire des fusions. Il parle souvent de fusion d'écoles pour faire des gros établissements dans une commune précise. Nous, ça nous pose question sur parce qu'on sait que l'école dans beaucoup de territoires, ça reste le seul service public présent. Et donc effectivement, ça pose la question de ce qu'on met derrière le service public.
Dernier dossier évoqué par la Redac Pop avec ses différents acteurs, et non des moindres, la question de la carte scolaire. Dans le Loiret, les chiffres sont loin d'être réjouissants. Le recteur indique une baisse structurelle du nombre d'élèves dans l'académie Orléans-Tours, dans le premier degré particulièrement, mais aussi dans le second. Dans le primaire, cette diminution était estimée à près de 840 élèves lorsque le plan a été mis en place en mars dernier. Conséquence, de nombreuses fermetures de classes ont été programmées lors de ce plan. Il prévoyait 84 fermetures de classes, 36 ouvertures, 2 fusions d'écoles et 2 fermetures d'écoles selon le SNUIPP-FSU. Les fermetures de l'école du Berry à Gien et de celle de Yèvre-la-Ville témoignent en particulier de fortes tensions démographiques dans l'est du Loiret qui perd des habitants année après année. Un réajustement s'est opéré à la rentrée sous l'égide du comité social d'administration départementale avec 17 classes supplémentaires ouvertes et 2 fermetures de plus. Mais la balance reste largement déséquilibrée. Équilibré, avec environ 34 classes en moins dans le global.
Il y a une baisse structurelle des nombres d'élèves dans notre académie, dans le premier tout particulièrement, mais aussi dans le second degré. Donc là, avec les ENU et l'ensemble des acteurs éducatifs, nous travaillons sur la carte scolaire afin d'anticiper au mieux ces baisses démographiques. Il peut y avoir des points de tension sur la question de la carte scolaire, mais globalement, nous sommes dans une région académique, dans une académie qui est apaisée sur ces questions-là, mais nous traitons chacun des dossiers avec la même attention, chaque classe, chaque enseignant, chaque élève et chaque élu local.
La syndicaliste Sylvie Lenné comprend les tensions et les déséquilibres démographiques du Loiret, mais elle veut porter, je cite, une toute autre vision de l'école et des services publics.
On a quand même des tendances fortes. Hein. C'est sûr que la répartition de la population n'est pas équitable. Il y a des effondrements démographiques dans les endroits qu'on connaît dans le Loiret. C'est vrai qu'il semblerait logique que des classes ferme, mais comme vous l'avez dit, effectivement, c'est comme quand une caserne militaire quitte une ville, ça a des répercussions sur tout le tissu social, culturel, associatif, même économique. Hein. Il y a des endroits effectivement qui sont défavorisés et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait envisager une autre politique. Alors, on n'est pas... on n'a pas à faire de bénéfices, on représente les services de l'État. Et donc, justement... il serait peut-être possible quand même à des moments d'éviter ces fermetures, quitte peut-être éventuellement délester certaines écoles dans la mesure du possible. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est que Ça serait intéressant d'envisager la carte scolaire aussi comme une façon de ne jamais fermer, mais de mieux répartir des élèves ou d'alléger ou de lisser les effectifs, parce que des classes en primaire au-dessus de 25, c'est une hérésie. Il ne faudrait pas qu'il soit plus de 20. Donc ça veut dire, alors évidemment, il faut éviter des temps de transport trop longs, etc. Mais le fait de maintenir des classes, soit on maintient des classes et s'il est possible, on fait venir des enfants de manière à ce qu'ils puissent se retrouver à une vingtaine, moins de 20 peut-être par classe, ou alors ça veut dire qu'on crée les postes qui sont supprimés, sont réimplantés dans d'autres écoles où il y a déjà une saturation au niveau du nombre d'élèves. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à garder de toute façon ces moyens, puisqu'ils ne sont pas en augmentation, plutôt que de les rendre à ce moment-là, ou d'agrandir l'école, je ne sais pas ce qui est possible de faire, mais en tout cas d'essayer d'agir sur le problème numéro un, qui est la surpopulation par classe.
Sur comment lutter, on a pu voir en mars dernier certaines écoles avec, où les enseignants, enseignantes soutenus par des parents d'élèves se sont mobilisés contre les fermetures de classe. Et avec le soutien des élus, parfois, ça a empêché la fermeture. Donc, comment lutter ? Eh ben, parents et enseignants, n'hésitez pas à vous mobiliser, à interpeller les élus.
Toujours est-il que le travail sur la prochaine carte scolaire est d'ores et déjà enclenché, selon Jean-Philippe Agresti.
Pour la rentrée, toutes les classes sont ouvertes, donc tous les problèmes sont gérés. Nous allons travailler désormais à la rentrée prochaine. Et donc là, des points pourront se révéler et des discussions avec les élus locaux pourront avoir lieu.
On imagine déjà la fébrilité de certains de ces élus dans l'attente de cette épée de Damoclès qui pourrait tomber sur certaines de leurs classes. Cette prochaine carte scolaire devrait être dévoilée autour du mois de mars 2025.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Campus.
Ne faites pas attention au désordre.
Thank you.
Tak dej se k nám. Ček toulavých. Tak dej se k nám.